Ici l'Europe, Caroline de Camaret.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Bonne année 2025 à tous et à toutes, aux téléspectateurs de France 24, aux auditeurs de RFI. Cette année 2025 sera riche pour l'Union européenne qui démarre un nouveau cycle avec toutes ses institutions renouvelées et des États quelque peu divisés ou dispersés. Ce mois de janvier, en effet, changement d'ambiance pour ce qui est de la présidence tournante de l'Union européenne. Elle est passée de la Hongrie du très provocateur Viktor Orban à la Pologne du pro-européen Donald Tusk, avec un agenda très axé sur le soutien à l'Ukraine. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Étienne de Poncet. Bonjour. Vous êtes l'ambassadeur français à Varsovie depuis un an et demi. Et je précise que vous étiez auparavant à Kiev, c'est-à-dire pendant le déclenchement de la guerre. Vous avez d'ailleurs écrit ce livre « Au cœur de la guerre » aux éditions XO, qui a très bien marché. Vous connaissez bien l'Union européenne et ses arcanes pour avoir publié d'autres ouvrages sur son fonctionnement. Commençons vraiment sur ce 1er janvier où la Pologne a obtenu cette flamme olympique, en quelque sorte, de la présidence tournante qui lui est revenue. Est-ce que c'est une bonne nouvelle et surtout un bon timing pour l'Union européenne ?
Oui, c'est à la fois une bonne nouvelle et un bon timing. On attendait beaucoup cette présidence polonaise, donc qui sera présidée par Donald Tusk, le nouveau Premier ministre polonais. C'est un moment important pour l'Europe. Est-ce que ce sera la première présidence utile, je dirais? La commission de Mme von der Leyen, deuxième commission, s'est mise en place. Elle est maintenant opérationnelle et donc elle doit maintenant lancer ses directives pour les années à venir, son programme de travail. Et ça va se faire avec une présidence polonaise qui sera pro-européenne, en soutien et dont les vues correspondent assez largement. Et c'est satisfaisant aux vues françaises. Donc nous accueillons cette présence avec beaucoup d'enthousiasme et d'impatience.
Seulement, le passage de relais a été un peu difficile avec la Hongrie de Viktor Orban qui a présidé ces 6 derniers mois. Et en multipliant les voyages polémiques en Russie, en Chine et même en Moldavie, l'ambassadeur hongrois n'était pas présent aux cérémonies de passation. Expliquez-nous quels sont les différends entre les deux pays.
Il y a un différend un peu personnel aussi entre les deux dirigeants qui remontent à loin, ils se connaissent depuis longtemps.
Donald Tusk et Viktor Orban,
donc ils se sont côtoyés comme tous ces dirigeants d'Europe centrale et orientale depuis des années. Ils étaient ensemble dans la lutte contre le communisme et puis après ils ont très nettement divergé, notamment sur l'approche européenne. La présidence hongroise, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas joué collectif. Elle n'a pas joué son rôle de présidence qui essayait de faire converger les positions. Au contraire, ils ont joué leur rôle en individualiste. Et donc, avec la présidence polonaise, nous sommes contents de retrouver, je dirais, une vraie présidence européenne qui va prendre ses responsabilités avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme. Et les Polonais, je suis bien placé pour le savoir, se sont très bien préparés à cette deuxième présidence, puisqu'ils l'avaient déjà exercée il y a quelques années.
Il y a un aspect très politique aussi. Le mois dernier, la Hongrie a accordé l'asile politique à l'ancien vice-ministre polonais de la justice, membre du parti donc d'opposition Droit et Justice, qui a fait l'objet de 11 chefs d'accusation pour détournement de fonds publics et l'objet d'un mandat d'arrêt européen. C'est un peu déloyal d'accueillir quelqu'un qui est poursuivi sur le territoire annexe ?
Je crois que oui, c'est pas des pratiques habituelles entre partenaires de l'Union européenne que d'accorder l'asile politique à quelqu'un qui est poursuivi pour des malversations.
Mais dont le parti ultra-conservateur est proche de celui de Viktor Orban.
Dont le parti ultra-conservateur est proche de Viktor Orban. Très clairement, Viktor Orban joue le parti d'opposition à Donald Tusk. Il y a donc un jeu politicien bilatéral qui explique un peu cette froideur des relations.
Mais sur le fond, Étienne de Poncet, quand elle était dirigée par le PiS ultra-conservateur, la Pologne a été en conflit pendant 8 ans avec Bruxelles pour manquement à l'indépendance de la justice et atteinte aux droits des minorités sexuelles encore plus récemment. Est-ce que vous jugez qu'il y a un changement de cap rapide sous Donald Tusk, une restauration rapide de l'état de droit ou non, c'est beaucoup plus difficile?
Alors, deux choses. Il y a d'abord la volonté de sortir de cette période-là, et ça a été validé par la Commission européenne, donc qui a rétabli les fonds européens très vite après l'arrivée de Donald Tusk au pouvoir en décembre de l'année dernière, il y a exactement un an. Donc il y a un programme, effectivement, qui s'est traduit très concrètement déjà par le fait que la Pologne a rejoint le mécanisme de procureur européen. Et puis après, il y a les difficultés rencontrées pour faire passer ce retour à l'état de droit, et notamment le fait que le président polonais, Alexander Duda, est encore en place et qui, lui, il est de l'ancien parti. Donc il y a une cohabitation actuellement en Pologne. Et le président polonais.
Très dur d'ailleurs, hein, il n'est pas venu aux cérémonies non plus.
Il n'a pas été invité aux cérémonies. Il refuse de nommer les ambassadeurs polonais qui sont envoyés par le gouvernement Tusk. Donc tout ça est une situation conflictuelle, une cohabitation. Et le président polonais dispose du droit de veto. Donc il peut bloquer les lois. Et donc tout ceci explique que la situation, les progrès n'aient pas été aussi rapides que.
Notamment, une intervention volontaire de grossesse, c'est toujours aussi difficile en Pologne.
Alors là, on se heurte à un autre problème, une autre difficulté, je veux dire, c'est que la coalition elle-même, donc la coalition au pouvoir, qui est très...
Qui est de droite, mais libérale.
Qui est de droite, libérale, mais qui comporte diverses composantes. Certaines sont très libérales, d'autres sont beaucoup plus conservatrices. Il y a notamment le petit parti paysan qui fait charnière. Il y a aussi les centristes qui ont une position un peu ambiguë. Donc sur tous ces sujets de société qui ont beaucoup mobilisé l'électorat en faveur de Donald Tusk, il est vrai que les progrès sont très lents, que ce soit sur l'adoption de l'équivalent de notre PAX, par exemple, homosexuel, ou que ce soit sur sur l'avortement, où les progrès sont très limités pour l'instant, il faut bien le reconnaître.
Alors, en tant qu'ambassadeur en Pologne, vous constatez que depuis le retour au pouvoir de Donald Tusk il y a un an, cette Pologne est en train de s'imposer sur la scène européenne, alors que justement la France, l'Allemagne sont fragilisées par les échéances électorales. Est-ce que effectivement la Pologne n'est pas en train de tisser des liens, de devenir un centre finalement, un pôle européen important?
Oui, absolument. C'est en fait, on peut même parler de moments polonais en Europe qui tiennent à plusieurs éléments. Bon, d'abord la présidence polonaise, le fait que le Premier ministre connaît très bien les arcanes de Bruxelles. Il a été longtemps président du Conseil européen, donc il sait très bien comment manœuvrer. Le fait qu'il y a un gros contingent polonais au sein du Parlement européen dans le principal groupe, qui est le groupe PPE, le groupe de centre-droit. Le fait aussi que la Pologne apparaît comme le soutien principal ou très en pointe sur la guerre en Ukraine. Je crois qu'il y a une nouvelle assurance polonaise qui tient au fait que la Pologne, en alertant sur le danger russe pendant des années, avait eu raison. Et donc les Polonais ont un peu le sentiment d'avoir une nouvelle assurance qui tient aussi à un remarquable résultat économique. Le chômage est à 2,5% en Pologne. La croissance est très forte, c'est la plus forte d'Europe. C'est un vrai succès économique. Et 20 ans après leur adhésion, puisqu'on a souvent tendance, on parle encore des nouveaux membres, mais ça fait 20 ans qu'ils sont dans l'Union européenne, c'est très probablement l'un des succès les plus remarquables de cette adhésion.
Étienne de Poncin, la Pologne, qui est d'ailleurs un fidèle allié de l'Ukraine. Vous avez été ambassadeur, je le rappelle, en Ukraine, sous le feu des projecteurs. En ce moment, la brigade Anne de Kiev, financée et entraînée par la France, qui aurait vu un grand nombre de désertions. Les enquêteurs ukrainiens ont arrêté un commandant d'unité pour abus de pouvoir. En attendant, les soldats enrôlés dans cette brigade opèrent actuellement avec nos canons César dans l'une des directions les plus chaudes du front, dans le secteur de Pokrovsk, où notre correspondante Emmanuelle Chaz les a rencontrés.
L'affaire est suffisamment grave pour que le commandant des forces terrestres lui-même se rende près de la ligne de front pour parler des problèmes de la brigade Anne de Kiev, la fierté de la coopération de défense franco-ukrainienne.
Il y a des problèmes, et il y a eu des problèmes avec le personnel, la préparation, et en partie aussi avec la composition de l'équipe. Je tiens à souligner que l'abandon de la brigade, du personnel qui effectue la formation en République française, est minime. Vous le savez, n'est-ce pas ?
Mihail Drapati fait référence à un nombre élevé de déserteurs cités par les médias ukrainiens et aux allégations d'abus de pouvoir au sein de la première brigade ukrainienne formée en France et équipée par Paris et Berlin. Désormais, Kiev veut montrer que malgré les problèmes, sa brigade fonctionne pleinement. Sur ce poste d'artillerie, on retrouve le commandant du canon. Il a été formé en France puis en Ukraine avant de devenir opérationnel sur le front.
Je n'ai jamais combattu. Je ne savais pas ce qui se passait. On s'y habitue d'une manière ou d'une autre avec le temps. L'essentiel est de ne pas avoir peur, de tenir bon, d'avoir un esprit combatif.
À l'arrière, les commandants d'artillerie admettent que tout n'est pas parfait dans leur brigade, mais pour eux, telle est la nature de la guerre.
Je crois que, regardez, tout d'abord, il y a tellement de petits problèmes. Je dirais dans chaque brigade, en particulier dans une brigade nouvellement créée. Je crois que notre brigade n'est pas au niveau le plus bas, ni au plus élevé. C'est un niveau moyen, voilà tout.
Ici, personne ne parlera du nombre de déserteurs, sauf pour dire que beaucoup reviennent. Mais Kiev a ouvert une enquête sur la gestion de la brigade, car elle espère convaincre à la fois ses alliés de continuer à financer de nouvelles brigades et ses citoyens de rejoindre l'effort de guerre.
Monsieur l'ambassadeur, la France s'est-elle formée et équipée les Ukrainiens ?
Alors, je crois que cette brigade a été formée en étroite concertation avec les Ukrainiens. Il y a des échanges permanents, tant sur la formation qu'après. Depuis qu'elle est revenue en Ukraine, la responsabilité, elle relève des Ukrainiens eux-mêmes. Nous n'avons plus à intervenir sur ce sujet-là. Moi, ce que je tire comme enseignement de votre remarquable reportage, c'est le fait que l'Ukraine est une démocratie et que ce type de problème apparaît au grand jour et qu'il y a des échanges, que vous puissiez d'ailleurs, que des journalistes puissent aller interroger des soldats ukrainiens sur le front, c'est quand même très significatif. Pour dire le moins, on ne voit pas ça de l'autre côté.
Avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, les inquiétudes redoublent sur le soutien de l'Ukraine par les Européens. Pour la première fois, lors de la fameuse conférence des ambassadeurs de rentrée, à laquelle vous assistiez bien sûr, Étienne de Poncin, eh bien, le président de la République a invité l'Ukraine à mener des discussions réalistes sur les questions territoriales. Traduction.
En fait, c'est la prolongation de ce que le président de la République a dit depuis le début de la guerre. Il appartient aux Ukrainiens eux-mêmes de décider du moment et des conditions dans lesquelles ils considéreront que le moment est venu de faire la paix ou d'accepter un cessez-le-feu et que nous ne nous substituerons pas à leur propre décision.
Mais Donald Trump veut imposer un cessez-le-feu très rapide. Est-ce que vous croyez que les Européens sont encore dans le jeu, peuvent infléchir justement les conditions de ce cessez-le-feu ou se substituer aux États-Unis s'ils sont défaillants ?
Alors d'abord, personne ne sait exactement ce que va faire le président Trump lorsqu'il arrivera aux affaires. Du côté des Européens, il y a beaucoup de concertations pour voir justement comment maintenir ce soutien à l'Ukraine. Le président de la République était d'ailleurs le 12 décembre à Varsovie. Il a évidemment échangé sur ce sujet-là de façon très approfondie avec Donald Tusk, puisque les Polonais ont un rôle et une responsabilité toute particulière. Donc il y a des échanges à tous les niveaux, des réunions des ministres en divers formats pour justement voir comment on fait en sorte pour que l'Europe soit entendue, qu'elle soit à la table des négociations, que les Ukrainiens...
Même si elle n'est pas très unie, on parlait de la Hongrie, mais il y a aussi la Slovaquie qui a un côté très pro-russe, et puis peut-être demain l'Autriche qui va être dirigée par l'extrême droite. Est-ce qu'il n'y a pas justement une minorité qui pourra bloquer notre soutien indéfectible à l'Ukraine ?
Pour l'instant, la tendance très largement majoritaire, c'est quand même le soutien à l'Ukraine. Et celui-ci se manifeste et va se remanifester encore pendant la présidence polonaise avec l'adoption très vraisemblablement d'un nouveau paquet de sanctions, le 16e paquet de sanctions envers la Russie, et le maintien de ce soutien aussi longtemps qu'il le faudra. C'est une formule que l'on a utilisée, mais qui est vraie. Et donc ce soutien se confirme du côté français, du côté polonais, évidemment.
Alors, en tant qu'ambassadeur en Ukraine, vous avez vécu les premières heures de ce conflit, que vous racontez d'ailleurs dans ce livre « Au cœur de la guerre ». Vous avez été l'un des derniers hauts diplomates restés en Ukraine. Vous avez déménagé à Lviv, d'ailleurs, dans un premier temps, au milieu de cette invasion russe. Si c'était à refaire, est-ce que vous feriez tout pareil ?
Ah oui, absolument. Ce qui était le plus surprenant, ce n'était pas l'offensive en elle-même, c'était qu'elle vise la capitale Kiev dans les premiers jours. Ça, je pense que, à commencer par le président Zelensky lui-même, peu de gens l'avaient anticipé. Et donc c'est le scénario extrême qui s'est déroulé le 24 février avec la tentative avortée, heureusement, des Russes de prendre la capitale elle-même. Après, le fait d'être resté sur le territoire ukrainiens de parcourir et de sillonner pendant, je vous parlais des premiers jours de la guerre, mais je suis resté 540 jours en responsabilité à la tête de l'ambassade de France en Ukraine. Et donc j'ai sillonné ce pays en guerre du nord au sud et de l'est à l'ouest dans toutes ces villes. Et je crois que c'était nécessaire pour apporter le soutien et la solidarité de la France au plus près des populations en souffrance.
Vous avez essuyé des critiques et peut-être même une certaine forme de guerre hybride. Expliquez-nous.
Oui, ça a été une des mauvaises surprises, je dirais, de cette expérience de guerre en Ukraine et d'exposition médiatique forcée, je dirais, par mes responsabilités. D'abord sur les réseaux sociaux, j'ai vu cette guerre hybride se développer. À un moment, j'ai même dû subir des attaques comme quoi j'avais quitté, abandonné mon poste. Tout ça est quand même très, très planifié, très organisé. Désagréable à vivre, évidemment, au quotidien. Mais bon, je suis reconnaissant à mes collègues du Quai d'Orsay et de m'avoir toujours apporté leur soutien. Et comme par hasard, depuis que je suis ambassadeur de France en Pologne, ces attaques sur les réseaux sociaux ont disparu.
Alors, en parlant
je m'en réjouis, d'ailleurs.
De désinformation, Paris a exhorté la Commission européenne à une plus grande fermeté vis-à-vis d'Elon Musk, qui va entrer dans le gouvernement Trump et soutient fermement le parti d'extrême droite AfD en Allemagne. Et nous n'avons pas de réseaux sociaux européens. Est-ce que nous avons les moyens de nous défendre ?
Nous cherchons à nous réarmer aussi dans ce domaine-là.
C'est trop tard, peut-être ?
Non, c'est pas trop tard. On a pris des mesures, par exemple, au ministère des Affaires étrangères. C'est maintenant un sujet qui a été évoqué vraiment en profondeur lors de la conférence des ambassadeurs. Comment on fait face à ces guerres hybrides qui couvrent l'information, on le voit bien, et c'est votre métier, mais pas que l'information. Il y a beaucoup de domaines qui sont visés. On l'a vu dans la Baltique avec les câbles sous-marins, etc. On est maintenant dans un monde, comme l'a rappelé le Premier ministre lorsqu'il est venu s'exprimer devant les ambassadeurs, où c'est la loi de la force qui s'impose.
On le voit en Géorgie, en Roumanie,
donc il faut se préparer.
Ingérence russe. Hein.
Il faut se réarmer, non seulement militairement, c'est l'objet des programmes et que nous conduisons.
Oui, parce que la Pologne est à 4%, la Pologne est très devant.
Pologne est très, depuis longtemps.
4% du PIB en défense.
Absolument, 4% du PIB en défense, peut-être même 5%, avec beaucoup d'achats. Beaucoup à l'étranger, hors de l'Europe, ce que nous regrettons parfois, puisque l'ancien gouvernement avait fait des acquisitions massives de matériel en Corée du Sud et aux États-Unis. Nous souhaiterions que ce soit un peu plus européen, mais ça, c'est un autre sujet. En revanche, c'est vrai que la Pologne nous montre le chemin avec cette volonté de réarmement, parce qu'ils sont en première ligne. Moi, pour vivre à Varsovie en permanence, on sent très fortement en Pologne qu'il y a les Ukrainiens, et puis la deuxième ligne, c'est la Pologne et les Pays-Baltes aussi.
Au cœur de l'Europe centrale et orientale, il y a l'Autriche, le FPE, la droite extrême arrivée en tête des élections législatives et en passe de former une coalition et d'en prendre d'ailleurs la tête. Les droites extrêmes qui progressent partout en Europe, nos démocraties et le projet européen d'intégration sont-ils, selon vous, en mesure de résister en 2025 ?
Justement, la Pologne est un bon exemple où le populisme a reculé avec l'élection de Donald Tusk. Et un des enseignements que souhaite présenter le Premier ministre polonais, c'est justement comment on fait pour mettre en échec le populisme tout en ayant une posture pro-européenne et en gardant toute sa place en Europe. Et donc c'est possible, mais il faut pour cela beaucoup de conviction, beaucoup d'efforts d'aller vers la population, beaucoup de mobilisation aussi, parce qu'on oublie que l'élection d'octobre 2023 en Pologne, elle s'est faite grâce à une extraordinaire mobilisation de la population avec un
et
taux de participation.
Des oppositions.
Une union des oppositions, de la droite conservatrice à la gauche, donc un spectre très large, et que ceci a permis de mettre en échec le PiS.
Merci Étienne de Poncin, merci Monsieur l'Ambassadeur en Pologne d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis pour Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale. L'actualité continue bien sûr avec vous sur nos deux antennes.